much for joining the discussion about the new GTLD program and the overarching issues associated with it, the work that's been done to work towards a solution. I'm very pleased to be joined by board members Vonda Scardazzini, Bruce Tonkin, Rita Roden-Johnson, Steve Crocker, and Suzanne Wolf, who I think you all know. Just as a point of housekeeping, I'm going to apologize in advance that Vonda and Steve will have to leave after the start of the session as they have another meeting to go to, but we valued their participation even for a limited time that we're pleased that they could join. Can I have the first slide? So after a brief introduction, we're going to operate on the level that most of the people in the room are knowledgeable of the applicant guidebook and the issues surrounding the introduction of new TLDs. And so after a brief introduction...
Pour chacun des quatre thèmes fondamentaux, les études économiques, l'évolutivité de la racine, la protection de marque et les codes malveillants. Hein? Et nous aurons l'occasion pour des membres de l'OS qu'ils viennent faire des commentaires sur le travail fait aujourd'hui, qu'ils aient l'occasion des changements particuliers qu'il faut faire sur le guide et qu'on puisse traiter ces questions. L'idée d'avoir ici des membres du conseil d'administration présents, c'est pour une interaction directe avec la communauté, qu'ils puissent écouter vos commentaires et mener tous ceux qui se produisent ici aux discussions du conseil dans les prochains processus de GTLD. Hein, tout ceci sera d'une grande valeur pour nous. Prochain diapo, donc... Synthétiquement, les questions traitées avant le dernier guide ont lieu à garantir la stabilité continuée de la racine et les études économiques pour déterminer les bénéfices potentiels du nouveau programme GTLD et les coûts. Hein, traiter les questions des propriétaires de marques en ce qui concerne l'enregistrement et la protection de marques de premier niveau hein, et... Avec la multiplication de TLD, comment nous travaillons pour garantir que ce comportement malveillant ne se multiplie pas? Notre approche a été de considérer toutes les consultations et commentaires du guide des groupes d'experts comme le IRT et le STI de solutions de marque et d'élever ces commentaires publics, développer un groupe de solutions pour le guide dans cette idée de lancer le processus. C'est très important d'avancer et de mettre en œuvre les solutions et de mesurer l'impact pour voir quelles sont les améliorations et les solutions qu'il faudrait prévoir. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais comment peut-on mesurer les impacts? Bon, il faut considérer les objectifs de politique établis dans l'affirmation d'engagement pour les programmes GTLD et on mesure l'effectivité de ces quatre mesures comparées à ces autres quatre. Nous avons 2 heures pour 4 sujets, ce n'est pas beaucoup et nous voulons vous écouter. Hein? Et à ce qui concerne l'évolutivité de la zone racine, il y a une collaboration et des consultations entre le RSSAC et une équipe formée particulièrement pour le RSSC. Nous avons RSSAC et nous avons publié des documents sur l'évolutivité de la racine et nous avons employé ceci comme modèle pour la zone racine. Nous analysons les impacts certes, dans l'introduction de nouveau TLD, il y a un autre rapport sur la délégation anticipée avec de nouveaux GTLD et quand on pourra déléguer ces nouveaux TLD, combien, on pense à 200, 300 TLD par année, et s'il y a un maximum, et si on va mettre ceci sur une application qui durera un long temps, hein. Un autre rapport est préparé avec des experts externes sur l'évolutivité de la zone racine et montre l'état des choses suivant. Hein? L'une des questions sur l'évolutivité de la racine, c'est l'introduction coïncidente d'IDN d'IPv6. La signature de racine d'IDN CC et les nouveaux GTLD qui ne sont pas nécessairement couverts par des événements, mais la délégation d'IDN et le déploiement d'IPv6, la mise en marche d'IPv6 et la signature racine, de la racine. Je passe la parole à Steve et à Suzanne. Le fait que les délégations sont très limitées pour cette discussion, les niveaux de délégation n'arrivera pas à 1000 par année. Hein? Et nous passons donc la parole à Steve pour qu'il traite cette question. Et après, il y aura un temps pour les questions portant sur la stabilité de la zone racine. Steve. Merci beaucoup, Kirk. Je crois que tu as très bien couvert tous les thèmes, donc j'essaierai de ne pas répéter ce que tu viens de dire, mais mon idée est de remarquer certains petits points. La portée est au début, à un moment où il y avait moins d'informations qu'actuellement, hein, mais avec le temps passé, on a trouvé certaines solutions pour le problème. On l'a résumé assez. Hein, et la racine est déjà signée avec le DNSSEC et l'impact est très visible maintenant. Et bon, Suzanne pourra après faire des commentaires plus amples sur cette question. Hein, et tel que Kurt l'a dit, elle pourra s'occuper de la question de les applications de marketing. Combien d'applications arriveront à la prochaine étape et à mettre un mouvement dans le système M? Et je voulais aussi insister sur deux questions qu'il faudrait mentionner en ce qui concerne le processus que nous avons prévu. Hein. On a construit un processus qui plus souvent qu'avant, et définit le ton d'une conversation permanente avec des interactions entre l'utilisateur et là où cette charge est créée, hein, et il faut voir après où se travaille ceci. Il ne faudrait pas dépasser 1000 par année, hein. Mais évidemment, ceci n'a pas de solution claire vers un futur indéfini. Je voudrais dire qu'il y a 2, 3, 4 années, hein, à peu près, c'est ce que nous prévoyons. Et nous avons beaucoup débattu cette question, mais le résultat clairement s'exprime dans toute la documentation. Nous n'avons pas l'intention de considérer ces chiffres comme pour toujours. Hein. Nous comprenons qu'il faut revoir et recalibrer ces chiffres et faire un processus d'observation de ces mesures. Hein. Tout ceci, c'est essentiellement constructif et je dors très bien le soir. Hein, et Dieu merci. Suzanne Wolf, oui, je voudrais insister sur ce que Kurt et Steve ont dit, hein, qu'ils ont. Il y a deux questions que je voudrais traiter. Une, qui est très difficile, hein, dans l'idée de déclarer l'utilité de ces questions.
par rapport au débat dans le cadre qui nous réunit avec l'exemple de la DNC déployée en face. Nous avons ce cas de démonstration qui a été très opérationnel pour les publics. Le déploiement de NSSEC, de la collaboration, de la coopération jour après jour de toutes les parties intéressées dans ces procédures et que tout se fasse de forme ordonnée. Il n'y a pas eu des problèmes de prédictibilité du système. Donc, au-delà du fait d'avoir bien géré la question opérationnelle, il y a eu reconnaissance sur la possibilité d'amélioration. Il y a eu des recommandations portant sur un suivi plus étroit des données et plus spécifique pour pouvoir échanger publiquement avec les parties par rapport au fonctionnement du système et par rapport à la stabilité et l'apparence de cette stabilité du système racine. Nous avons eu ce type de déclaration et des conclusions qui sont simples, mais qui représentent beaucoup d'idées, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement par rapport à un système qui maintenant fonctionne pour que les choses aillent encore mieux. Merci. Donc, nous allons demander au public de venir au microphone et nous allons nous vous invitons à poser des questions. Merci.
So maybe some more action here.
Plus d'action peut-être par rapport aux études économiques. On a beaucoup fait un grand travail et on a beaucoup débattu à différents moments. ICANN a eu des contrats avec Compass Lexicon, avec Dennis Carlton, avec Greg Rosson, Michael Katz, Charles River Associates, pour faire des études économiques. Il y a eu aussi des études indépendantes faites en 2007-2009 aussi, et avec la OCDE en 2004. Et il y a eu des bénéfices potentiels pour faire évoluer les racines. Et tous ces documents ont traité les bénéfices des GTLD qui encadrent donc les bénéfices qu'ils comportent. On pourrait voir quelle est la valeur que ceci comporte dans un espace plus générique, les TLD, les IDN par exemple, liés à la protection des marques et les coûts associés au fait de passer d'un TLD à un autre, c'est-à-dire un domaine de haut niveau, hein, et s'il devrait avoir des limites de prix pour les nouveaux enregistrements, et s'il devrait y avoir une séparation de l'organisation structurelle entre les registres, ou si on devrait donc les laisser tels quels. Hein? C'est-à-dire, on a fait beaucoup d'études de niveau économique. Le travail a été énorme pour lire toutes ces études. On a travaillé sur ceci ce matin et on a traité toutes ces questions. Donc, je voudrais savoir, les commentaires de la réunion jusqu'ici en Colombie, hein, les études économiques ont été postées pour le commentaire public, donc sont ouvertes, vous le trouvez sur le web, et nous voulons des réponses à ces questions. Ces questions peuvent créer d'autres questions, mais nous vous invitons à participer vraiment avec vos commentaires. Prenez les micros, s'il vous plaît, sur toutes ces études économiques qui ont été publiées, parce que ceci nous sera très utile pour des travaux futurs et pour savoir ce qu'on peut attendre de ce type d'études et si on devrait continuer à les faire ou non, ou devrait-on obtenir de nouveaux GTLD ou comment ceci pourrait toucher le guide. Donc, des commentaires spécifiques et des questions spécifiques sur les études. Nous vous demandons et mesure de l'avancement avec les nouveaux GTLD, quel devrait être l'impact sur le programme et comment nous devrions employer l'expertise des économistes pour savoir si nous pourrons, par exemple, atténuer les coûts. Comment peut-on mesurer ceci vers le futur? Quelqu'un veut prendre le micro pour commencer? Une question, un commentaire? Merci. Je suis Marilyn Kane. Pourriez-vous revenir à la diapo des études économiques et des rapports, s'il vous plaît? Ce sont des rapports économiques. Bon, certains peuvent être des études, mais la plupart, ce ne sont que des rapports économiques. Il y a une différence entre ces deux termes. On a engagé une série d'économistes. Et très probablement, moi-même, j'ai engagé quelqu'un et dans toute mon histoire de travail, c'est important parce que moi, j'ai une compréhension profonde de ce que c'est un rapport et une étude économique qui est liée aux théories et aux faits économiques et de la création des politiques. Certains de ces rapports incluent des analyses et d'autres non, Il n'inclut pas la réunion d'informations basée sur les données, les faits, sur l'emploi de noms de domaine. Je m'excuse. Quelle est la forme d'enregistrer les noms de domaine? Comment on les emploie et pourquoi les personnes enregistrent ou non ces noms de domaine? Et je veux marquer ceci parce que j'ai passé un long temps à parler, à échanger avec une société d'économie pour essayer de comprendre cette question particulière. C'est un secteur, je pourrais dire, qui n'est pas lié à de produits médicaux ni des frites ou non. C'est quelque chose de tout différent de produits aux consommateurs. Parce qu'un produit au consommateur peut être échangé par un autre produit. Non, ce sont des rapports qui peuvent inclure une information basée sur des études, sur l'enregistrement réel et pour employer les noms de domaine actuels incluant la grande quantité de noms de domaine enregistrés avec des codes pays ainsi que le TLD basé sur ASCII. Donc, j'ai le plaisir de voir la deuxième étape de ce rapport qui a été publié vendredi, qui montre que nous avons commencé à faire quelque chose que j'ai appelé pour longtemps et que je demandais constamment, donc, que c'est de faire un emploi réel par l'étude des cas pratiques. Et on a commencé maintenant finalement à analyser l'expérience réelle des registraires et on a commencé à voir ce qu'on peut apprendre à partir de maintenant. Mais il y a une anomalie à traiter maintenant. Je ne veux pas vous donner mon pronostic pour savoir jusqu'à quand ceci continuera. Il y a ici une idée de changement de coût. Ce n'est pas une attente par rapport aux marques ou aux investissements sur les marques ou sur l'identité ou sur un nom en particulier. Parce qu'on ne change pas l'identité présente facilement. Il faut cohabiter pour un temps. Donc, c'est une analogie plutôt de penser à ce besoin de cohabitation entre IPv4 et IPv6 pour un temps long. Ça prendra vraiment du temps jusqu'à ce que quelqu'un qui a une identité significative et une marque de pensée avec une grande quantité de chiffres à plusieurs pays avec une présence physique dans la reconnaissance de marques sur le marché, hein, et pour quitter ce nom, le laisser, hein, de côté. Et on devra se préoccuper également de saisir le trafic, la cyberactivité. Donc, il faut prévoir cette cohabitation et quel est le coût de tous ces processus. Au futur, après certaines recherches, on pense que, par exemple, au lieu d'écrire, de parler, on ne devra pas se préoccuper pour ceci, mais que l'ICANN doit prévoir le temps. Et nous devons comprendre que pour réellement pouvoir étudier cette information, nous devons avoir une période pour des commentaires. Donc, je vous remercierai de commencer avec ceci, hein, pour traiter ces questions auxquelles nous avons fait allusion. L'une des questions que nous avons déjà apprises, c'est que c'est très cher pour enregistrer et protéger une marque. Et pour les utilisateurs qui ont une certaine attente sur l'identité qui le lie à l'Internet ou qu'ils trouvent sur l'Internet, parce qu'ils associent ceci à la qualité ou manque de qualité des marques. Il y a aussi une attente de confiance dans les marques. Un exemple, un consommateur qui pourrait penser que ce n'est pas une marque de poser, mais bon, c'est une marque en tout cas. Et les enregistrements sur .gov sont limités aux organismes de gouvernement. Donc, quand un consommateur a accès à ce nom, bon, il attend un organisme de gouvernement des États-Unis. C'est ça l'attente du consommateur. Donc, il faut commencer à analyser plus les attentes du consommateur, hein, et comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, tout ceci, hein, et que par rapport à la protection de la propriété intellectuelle et quels doivent être les mécanismes pour ne pas porter atteinte sur le consommateur. Et il faut penser sur les registres, les registraires, mais c'est ça qu'il faut penser, aux registraires, et ne pas nous mêler des affaires des registraires, mais en considérant toujours les gens qui doivent, par n'importe quelle raison, garder un portefeuille de produits. C'est ça ce que je veux dire, hein, cette affirmation est secrète, confidentielle, c'est un secret commercial. Donc, il faut faire confiance à celui qui signe un accord de confidentialité. Hein. Le responsable du portefeuille de produits doit signer un accord de secret de propriété intellectuelle pour savoir si les titulaires de marque sont disposés à divulguer cette information, hein, parce que c'est une information qui devrait être anonyme. Mais nous avons beaucoup appris et nous pouvons continuer à apprendre sur les mécanismes additionnels des protections des IDN et nous devons les mettre en pratique.
Très bien, Marilyn. Pour éclaircir un peu, quelle est ta question, disons, en général, c'est de l'information publique. Alors, tu as posé la question, qu'allez-vous faire avec les noms? C'est ça la question? Non. Je crois que si nous voyons l'analyse du rapport de Mason avec Mark Monitor, il y a une série de questions. Parce que nous ne comprenons pas les questions ici. Ce n'est pas le terme à utiliser, les coûts des changements. Ce que l'on essaie de faire, c'est de voir l'administration et aussi l'amélioration de la marque et le marketing de la marque, comment administrer un portefeuille de produits. Je crois que nous tous, ceux qui possèdent des marques, comprennent qu'ils doivent protéger leur marque, autrement ils auront le risque de perdre les droits intellectuels. Alors, ceux qui ont plus d'expérience que moi, si l'on administre un portefeuille de produits, il faut s'assurer que tous les enregistrements soient bien faits, à temps et qu'ils soient renouvelés et avoir aussi des actions de défense et de protection contre le cyber-squatting et les registres qui ont été enregistrés, peu importe la raison, ou des registres qui sont faits pour essayer d'endommager la marque ou de porter préjudice à la marque. Je vous donne un exemple où l'on peut ajouter une externalité négative à un réseau où l'on utilise la marque de manière plus défensive. Ceci dépend du processus établi, mais bien des fois, il y a de la concurrence entre les différents registres. Lorsque l'on peut individualiser le titulaire de la marque, qui peut avoir 1, 2, 10, 20 processus, alors ceci ajoute des coûts, c'est très cher. Si l'on forme une personne pouvant administrer un nouveau processus, former les personnes pour administrer des processus multiples, ceci n'est pas consistant. Et ceci ajoute de nouveaux coûts pour l'administration d'un portefeuille. Alors, lorsqu'on demande au titulaire d'un portefeuille quel est le mécanisme qu'il utilise, il faut aussi demander quelles sont les conséquences et les coûts additionnels qui en découlent. Correct, bien des fois, les propriétaires des marques montrent une approche défensive très agressive. D'autres, non. Anthony Van Couverin, nous avons déjà parlé d'un sujet qui concerne Marilyn. Il est important de distinguer les coûts entre les GTLD et ICANN et les coûts imposés par la structure d'une société. Il y a une série de structures qui impliquent 300 dollars par GTLD, un portefeuille de 30 000 noms obtient peut-être moins. C'est un portefeuille plus petit où l'on paie beaucoup. Je ne crois pas que les subventions des processus internes soient viables lorsqu'on parle de coûts. Comme il s'agit des études économiques, j'aimerais aussi voir s'il existe de nouvelles informations. Je ne crois pas que personne ne sera surpris de voir ou de connaître que le musée n'a pas fonctionné. Et nous savons pourquoi, parce qu'il y a des politiques très restreintes. Et je voudrais aussi savoir qu'avant de cette séance ou cette session, les noms choisis ont été choisis par ICANN. Il existe donc une différence entre le .com et le .org. C'est une différence sémantique entre les noms. Et finalement, maintenant, les gens peuvent comprendre leur marché. Les gens peuvent choisir leur nom pour qu'il soit attrayant pour la clientèle. Alors, .com, .biz, voir si on est en concurrence avec .com. Ce ne sont pas des équivalents. Il faut donc ceci n'a pas été choisi par Nostar, ce n'est pas le premier choix. Nous ne pouvons pas dire ce qui va se passer, mais nous ne pouvons pas faire confiance aux économistes parce que eux non plus, ils ne peuvent rien prédire. Merci beaucoup. Je vais interrompre un petit moment pour donner à Vanda et à Steve l'opportunité. Merci beaucoup d'être ici. L'un des sujets que j'apprécie vraiment, c'est le fait qu'ICANN investisse les ressources au-dessus de 2 millions de dollars pour ses rapports et pour ses études. Ceci aiderait si ICANN pouvait expliquer où et pourquoi ils ont choisi les rapports, parce que pas tous les rapports disent la même chose. Alors, l'une des choses qu'ils disent, c'est qu'une partie des affirmations, des engagements, justement, c'est de fournir au processus de prise de décision, c'est d'alimenter, de nourrir ce processus. Et des communautés comme le GAC attendent l'explication concernant les choses sur lesquelles ICANN a été d'accord et sur lesquelles ICANN n'a pas été d'accord. Donc, tu fais partie de l'ICANN. Lorsque nous parlons, voilà, c'est la communauté des Cannes qui parle. Nous aimerions donc penser et savoir ce que toi, tu penses comme important sur ces rapports. Voici donc un forum. Nous avons pris des décisions sur la reddition des comptes et la transparence. Nous voudrions savoir spécifiquement quelle est la partie des rapports que tu considères que ça vaut la peine pour commenter avec le reste des participants. Alors, moi, je reviendrai au point précédent. Dans le rapport original, le rapport Cray de la Martel D, qui doit acheter un nom de registre, ils ont mentionné l'inefficacité. Et Kurt a dit à ce moment-là que c'était plutôt complexe, que ceci a été dévié parce que on envoyait toujours l'utilisation des registres. Alors, on pourrait mentionner cela comme un cas particulier, ainsi que d'autres points qui peuvent appartenir à la même catégorie pendant la période des commentaires publics. On pourrait même faire référence à cela. Le suivi n'est pas une science exacte, je sais bien cela. Si j'étais à votre place, je sais bien que c'est une place difficile à occuper. Ce que vous réussissez à faire et ce que vous n'y parvenez pas. Mais la faiblesse d'ICANN, c'est que on parle d'un consensus, d'un processus, et malheureusement, il est difficile d'arriver à un consensus qui nous rend dans une position très peu confortable, et on peut envoyer les alliés qui défendent vos actions. Ils appartiennent au GAC. L'une des choses de l'intégration verticale, c'est qu'on ne peut pas s'autoproposer, se proposer soi-même. Le Conseil a adopté pas mal des décisions et des autorités des compétences. Alors, une fois que le comité d'ICANN ou le conseil d'administration donne tout cela au GAC, il y a de la compétence d'autorité sur le contrat.com ou de compétence des autorités des États-Unis pour pouvoir utiliser le GAC pour valider les décisions. Eh bien, je crois cela ne va pas signifier des centaines de milliers de dollars pour y parvenir. Il faut essayer d'avoir une activité responsable dans ce processus. Je voulais tout simplement signaler ces points-là. Merci, Michael. Bonjour. Les points sur le limite de la quantité de GTLD, à savoir 1000 par an, est vraiment irrélevant parce que ceci est appliqué à une période d'application spécifique. Nous devons anticiper un chiffre illimité de GTLD et par conséquent, le domaine le plus important n'est plus .com. Si la proposition .3x a du succès, les gens vont abandonner le .com et ils vont voir quel est l'avenir. Et dès qu'ils verront que chaque comparaison importante avec une zone .tld menée à bien par .can vont atteindre 185 000 TLD. Jusqu'à présent, on n'a pas fait d'études économiques concernant l'impact des millions de routes TLD et vous devez le faire en tant que comité, en tant que conseil d'administration. Le rapport de 2009 le montre, on l'a déjà fait à un autre moment. Pendant l'étape de ce dernier rapport, qui n'a pas abordé la possibilité de l'existence d'un système TLD pouvant remplacer le .com. Et ce que vous allez voir, c'est que ce qui va se passer, c'est que nous allons remplacer le .com lorsque ceci coûtera 10 dollars et il va y avoir. Les premiers TLD vont coûter 1 million de dollars. Le deuxième TLD va coûter 185 000 dollars. si une corporation demande beaucoup de GTLD, ceci deviendra moins cher. Donc, quelle est ma recommandation pour le conseil d'administration est basée sur le fait que vous voulez améliorer la concurrence. Pour reconnaître l'introduction de nouveaux GTLD, il faut le faire de manière à ce que le point com ne réplique pas, c'est-à-dire qu'il ne soit pas remplacé. Il doit être complémentaire du point com. Ce que nous devons faire et ce que je suggérais ce matin, le mieux ce serait de dire prenons les villes les plus grandes du monde et vous aurez un tel dès la raison. C'est que nous allons offrir la capacité de tester ce qui arrive. Et deuxièmement, il y aura une conscience globale des changements du marché des domaines. Il y a beaucoup de gens qui deviennent conscients qu'il existe des changements. Et il est vrai que ceci encourage globalement l'infrastructure, la création de l'infrastructure nécessaire pour les GTLD de l'avenir. Bonjour, je vais faire un petit commentaire. Premièrement, on ne doit pas appeler ceci des études économiques. On n'étudie pas quelque chose. On n'étudie pas une colonie de fourmis pour voir où elles vont. Hein. Ceci est une prédiction économique. C'est ça de quoi on parle. Nous disons, eh bien, appelons un économiste pour qu'il nous dise comment ça va se passer dans le monde d'ici 2 ans. Il y a quelqu'un qui puisse me dire qu'est-ce qui va se passer avec le Dow Jones la semaine prochaine, avec le dollar, avec l'euro? Vous pouvez me dire combien de registrations point musique nous allons avoir? Personne. Il n'y a pas d'économiste dans cette salle. Il n'y a personne qui puisse nous dire, même en ayant étudié tous les wikis et toutes les possibilités, il n'y a personne qui puisse répondre, il n'y a pas de données nouvelles. Personne ne peut répondre en définitive. Nous avons les TLD existants qui ont déjà 5 ans et il n'y a pas d'informations. Nous ne pouvons pas étudier tout cela et venir avec de nouvelles questions. Il faut faire des prédictions. Il faut établir ce qui va se passer dans l'avenir et deviner quoi. On se trompe tous. Nous pensions qu'il allait y avoir 10 000 en Russie. Non. La Colombie, 100 000? Non, 600 000. On s'est trompé. La réalité, c'est que nous avons la moindre idée de ce qui va se passer avec tout cela. Il y a des gens très intelligents dans la salle qui utilisent leur propre argent. Paris, au succès de ce projet. Je crois que voilà la preuve la plus importante des programmes TCLD. Pourquoi les jeunes viennent 2 ans de suite, les jeunes de Constantine qui sponsorisent cette rencontre, parce qu'ils pensent que ça va marcher. Je crois que ceci, c'est le test le plus important du programme TLD. Je sens, Marilyn, je crois que tu te trompes. Steve Delbianco, je suis membre de l'unité consécutive commerciale, du regroupement commercial. On se demande qu'est-ce qu'il y a de neuf et comment ça peut impacter le guide et les décisions à prendre. Je crois que nous devons, ou plutôt que les économistes doivent répondre à la question, les bénéfices vont excéder les coûts. C'est une question difficile à répondre. Les économistes ont conclu que les nouveaux GTLD vont avoir un bénéfice qui va excéder les coûts, mais à la page 39, je crois que voilà l'information et je cite, de nouveaux GTLD parlent de la protection des marques, mais aussi ils parlent des coûts des délits informatiques pouvant augmenter significativement. Alors, l'équilibre peut être positif. Mais la question qui apparaît, c'est que si les coûts vont excéder les bénéfices, vraiment. Ceci vise à ce qu'il y a de l'information sur les mesures de clearinghouse qui doivent s'améliorer, notamment sur les changements de l'actualité. Et deuxièmement, le numéro 2 est en rapport avec le contrôle, le plus grand contrôle de la délégation. parce que c'est compliqué, le batching est compliqué. Il faut les mettre dans la racine et les délégations initiales peuvent avoir une quantité très faible avec le temps pour évaluer si les RPM doivent être ajustés. C'est ce dont on a parlé aujourd'hui, ajuster les RPM sur la base de l'expérience ou si certains services fonctionnent avec certaines délégations. Je ne peux pas appeler ça un batch parce que ceci va vous confondre. Hein. Il paraît qu'il y a un saut que l'on va verser sur quelqu'un, mais si... c'est-à-dire on peut avoir de meilleurs contrôles pour améliorer cela. Je veux poser la question suivante. Quelle est la priorité? Comment on va déterminer le premier délégué? Je crois que ceci, c'est fini. C'est correct? Et si le premier est fini, une partie de cela est sous le contrôle de l'ICANN. Si nous regardons l'année 2004, il y en a qui ne sont pas toujours en ligne. Dans beaucoup de cas, ceci a été déterminé par la présence de candidats et qui établissent le chronogramme. Cette semaine-ci, nous allons avoir 10 et nous allons décider parmi ces 10. Et ceci peut clarifier justement ton commentaire. Nous allons trouver aussi, et si nous revenons à l'an 2000, BIC et Info n'ont pas été utilisés au même moment. Je crois que naturellement, il va y avoir une différence et naturellement, nous allons le dire. Mais je veux signaler que nous allons choisir parmi celui-ci ou celui-là et ceci va aller en premier lieu. Nous devons prendre la décision suivante comme communauté. Lorsque l'on fait la délégation du premier TLD, je suis prêt pour commencer. Il y en a d'autres qui ne vont pas commencer. Alors, vous aurez l'occasion d'évaluer les RPM pour vous assurer qu'il y aura des contrôles spécifiques et sûrs. L'étude économique donne de nouvelles informations qui dit que l'équilibre est positif. Voilà une partie de l'information et aussi il y a une autre partie de l'information qui dit que la suggestion de Stat dit qu'il faut tordre un peu les RPM. Le programme est conçu de cette manière. Le programme est conçu pour ce que l'on va faire en 2011 et puis on va évaluer. Là, dans une ronde, et ceci va être inclus dans le processus. On ne peut pas faire une seule ronde avec plusieurs centaines de TLD. Ce que je dis, c'est que dès que le premier TLD sera dans la racine des 2011, une fois que le registre sera pris, nous allons avoir le doute si cela peut être bien fait. Nous ne disons pas qu'on ne procède pas, mais de procéder avec soin, avec précaution. Nous tous, nous devons ajuster les RPM, les réclamations, les trademarks, etc. Il faut les ajuster à l'expérience. Ça n'a aucun sens de faire ces ajustements et de faire notre apprentissage avec l'apparition simultanée de plusieurs centaines de TLD. Il faut qu'il y en ait deux ou trois. Et ça, je vais le laisser à la communauté pour identifier la priorité. Mais l'étude économique vise au besoin que ceci soit bien fait. Je voudrais faire un commentaire. Je ne suis pas sûre que cette information soit nouvelle. Je ne peux pas je ne connais pas toutes ces études économiques, mais je sais bien que les coûts vont être très élevés. C'est pourquoi nous avons formé le TRT de la manière dont nous l'avons fait. Avant de former cette communauté croisée, et nous avions besoin d'experts nous donnant des solutions, des personnes connaissant les structures. « Je n'ai pas dit qu'il s'agissait de nouvelles informations, ni que les coûts des marques allaient être très élevés. Ça, je ne l'ai pas dit. Ce que je dis, c'est que les coûts vont être bien plus significatifs de ce qui avait été estimé si les mesures de protection des marques ne sont pas appropriées. Cela veut dire que la réponse à la question, justement, les coûts excèdent les bénéfices, mais on évalue pas la dimension du coût, mais le bilan coût-bénéfice. Steve, nous commençons la partie où il faut faire des commentaires différents. Je vais être bref, j'ai deux questions à poser. La première pour Kurt. Kurt, l'étude économique que l'on voit n'est pas là pour le commentaire public sur le site web de l'ICANN, mais pourriez-vous me dire quelle va être la date de clôture? Non, on est en train de décider cela et le conseil va faire un commentaire. Vous ne pouvez pas dire si ce sera avant ou après vendredi? Je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas mon obligation de le dire. Ceci est posté pour commentaire sur le site ICANN. Il n'était pas là il y a 15 minutes, hein, mais c'est peut-être mon problème à moi. Allez au nouveau GTLT, je sais bien que c'est posté. Ce qui est clair, j'ai donné le message au staff de créer un forum public pour ce rapport économique. Il est vrai que c'est l'intention. Quelle a été la date d'échéance du commentaire public dans la directive utilisée? Il n'y a pas de date de clôture. Non, il n'y en a pas. La question suivante, c'est-à-dire s'il y avait une date de clôture, eh bien, je voudrais, si j'assume qu'il y a une date de clôture après vendredi, bon, je dois admettre que c'est peut-être pas possible. Le rapport dit dans le paragraphe 3 que les projections pour les coûts externes peuvent être utilisées pour concevoir des politiques d'évaluation des applications pour réduire la dimension des coûts externes associés au nouveau TGLD. Je voudrais demander au Conseil, croyez-vous que pour vendredi, tout en assumant que la période du commentaire public ne va pas être clôturée, si cet espace existe effectivement, vous croyez que vous aurez suffisamment d'informations de ce processus de commentaire public pour pouvoir décider si l'on va utiliser ces principes? Et si on va utiliser des projections vis-à-vis des coûts externes pour concevoir des politiques d'évaluation des applications et concevoir des politiques pour réduire la dimension des coûts externes, vous croyez que vous aurez cette information pour vendredi? Oh, j'ai aucune idée. Hein. J'écoute ce que tu dis. Je ne sais pas que c'était posté, qu'il n'y avait pas de date de clôture. On va demander au staff de nous informer pendant cette semaine pour pouvoir travailler là-dessus. Mais je n'ai aucune idée. Je ne veux pas concerner d'autres membres du comité, mais je crois que lorsque ceci a été posté, la période de temps concerne le vendredi prochain, le matin, lorsque vous allez décider à propos de ce sujet. Et ceci va vous permettre de considérer si le contenu du rapport doit être continué. Mais si on ne continue pas avec le rapport, vous êtes obligé de donner une explication et je crois que vous n'aurez pas la possibilité de le faire dans la période de commentaires publics si cela finit vendredi. Merci. Vous pouvez
le rapport du guide. Ceci n'a pas encore été posté comme quelque chose de définitif. Je suis post-Rara et j'ai un commentaire sur ce que tu viens de dire, Bruce. Il y a des choses à signaler sur le rapport et sur ce que Steve a dit sur le Bianco. Je voudrais signaler que dans le rapport, on dit que les bénéfices dépassent le coût hein, et qui selon moi, ce que je comprends, ce que je pense, et, ainsi que beaucoup de personnes ici dans la salle, c'est que la violation de plus de marques pourrait signifier plus de registres sur le .com que d'autres TLD comme .dot, info, .bis et les nouveaux TLD, et même ceux qui ont eu les mêmes mécanismes de protection de droits de la propriété intellectuelle. Donc je me demande pourquoi il y a un qui a plus de registres de défense que d'autres. C'est parce qu'il y a plus de trafic, donc il y a plus de cybercrimes qu'il faudrait éviter pour éviter cette création de délits. Et ceci me porte une autre idée. Le rapport dit que le bénéfice pour les titulaires de marques de ces registres de défense doivent être considérés quand on fait l'équation pour analyser si les bénéfices dépassent ou non les coûts. Et il y a le IRT qui avait plus de mécanismes d'attente que le .com et qui font vraiment une différence entre les marques et les registre de défense dans les TLD. Je suis en partie d'accord avec Del Bianco et partie à désaccord. Je suis d'accord à ce que le fait d'avoir plus de mécanismes de défense pourrait permettre de faire tomber les coûts pour les titulaires de marque. Mais s'il y a moins, bon, le coût pourrait même ne pas dépasser les bénéfices. Donc, je suis d'accord à ce qu'il y a plus, le coût serait plus bas, mais avec moi, il ne pourrait pas peut-être arriver. Donc, si on faisait un test avec le premier TLD et on puisse découvrir qu'il nous faudra un temps, une année, par exemple, pour voir quels sont les nouveaux TLD que nous avons, c'est-à-dire combien de registres de défense ont créé ces mécanismes de protection. Bon, c'est un trop long temps pour attendre. Donc, ceci, probablement, serait comme un point muséum, point info, etc. Il y aurait plus de mécanismes de défense de registre parce qu'il n'y a plus de mécanismes de protection de droit à cause de l'IRT. Et donc, ma question pour Del Bianco, c'est, et s'il y avait moins de marques ou de registres défensifs de marques, que se passerait-il? Ceci pourrait diluer les attentes sur les mécanismes de défense? Je dis oui, ce serait ça le résultat. Je crois donc que nous avons fait suffisamment d'études complètes. Donc, il nous faut continuer. Nous avons fait déjà assez d'études et nous savons que les bénéfices dépassent les coûts. Bon, fin de compte, c'est ça ce que je vais vous dire. Les bénéfices dépassent les coûts. Donc, je ne sais pas si nous avons le temps encore, mais tout le monde peut avoir une minute pour des commentaires, mais ne parlez pas vite, s'il vous plaît. Amadeo, je vous demande. Donc, il y a une forme de poser les commentaires. Nous allons vraiment donner une grande valeur à ceci. Donc, une question sur les études. Pour signaler quelque chose qui manque, on parle de la concurrence, les externalités positives et négatives, coûts-bénéfices, mais il y a une analyse sur ce qui s'est passé. Je ne vois pas quelle partie de .k, .asi ou le nom de la zone soit enregistré sur .com et quelle quantité se trouve sur le registre ou non. Ce n'est pas si difficile à prouver, je crois, et ceci pourrait nous donner une idée sur la différenciation sur la concurrence. On pourrait voir différentes tendances, significations, etc. On pourrait le classer. Bon, je ne suis pas un expert à un .k, un .4, mais Combien de domaines de ce genre nous avons et point com. Hein? On n'a jamais analysé ceci, la quantité de domaines point 4. Mais ce que je sais, c'est que pour la première année après, 31% d'enregistrement était venu de personnes qui n'avaient jamais auparavant enregistré dans de domaines. Bon, on doit considérer ici et on peut imaginer que c'est une violation de 50 noms de GTLD. Les premiers 50 qu'on a testés au hasard vont voir s'ils représentent ce qu'on attend de ce TLD. Hein. C'est ça la proportion dans ces zones et les conflits. Hein. Même dans les métriques plus simples qui ne peuvent pas être mappées dans différents paramètres de conduite, de comportement, de ce ne serait pas si complexe que ça. Hein. Carlos a une série de commentaires. Hein. Carla Valente, qui parle en représentation de la salle de bavardage. Il y a 51 participants dans la salle de bavardage. Et l'une des questions, c'est pourquoi les commentaires pour les études économiques ne sont pas résumés par le personnel. Hein? Bon, le commentaire est pour les périodes. Pour le commentaire est déjà clos, 9 juillet, 10 juillet. Hein? Il y a eu des questions mentionnées qui ont présenté des aspects de coûts massifs avec différents types de GTLD. Hein. C'est que le personnel va résumer ses commentaires avant de vendredi, hein, quand l'échéance du conseil. Bon, si l'idée, c'est que les économistes résument et analysent les commentaires, mais ce n'est pas une fonction du personnel. Hein. Je sais que les économistes, ils ont lu les commentaires et la deuxième version du rapport, mais les commentaires ne sont pas encore à disposition. Et le dernier rapport montre un certain sous-groupe de problèmes très évidents et très liés à la mise en œuvre. Par exemple, si Microsoft assure point search, qu'est-ce que fera Google ou n'importe quel autre fournisseur de services de recherche? Microsoft sera heureux de permettre aux enregistreurs de enregistrer point Google Search et ainsi. Hein. Donc, est-ce qu'ICANN va analyser ce problème potentiel en extension? C'est clair ce que je veux dire. Donc, il y a d'autres questions dans la salle de bavardage, mais à cause du temps, nous devrons envoyer toutes ces questions au conseil d'administration aujourd'hui. Bon, un court commentaire sur ce tour numéro 3. Hein, nous sommes entre 1 et 3. Bon, cette ronde 3. Je ne veux pas parler d'économie, non, mais du nouvel guide du demandeur. Hein, Il y a un document qui dit qu'ICANN demande 3 années de revenus opérationnels pour tous les demandeurs. Je peux voir le calcul du coût, hein, quel sera le prix d'un registre approprié, une quantité de dollars. Hein. 1900 millions, c'est opposé à ce qu'on veut dépenser. Hein. Donc, je suis curieux de savoir quels sont les fondements pour ces 3 années? Il n'y a pas d'option à ceci. Hein. Tout le monde le prend comme quelque chose de fait, de fermé. On parle de ces 185 000 nécessaires pour y arriver sans voir d'où ça vient. Hein. Donc, on se demande sur les Dow Jones qu'il n'y aura pas d'enregistrement dans ces années ou point musique. Je suis curieux, hein, parce que si on n'avance pas, le problème va continuer. Nous devons aller en avant, hein, parce que sinon on restera à zéro. Votre. A fait partie du guide pour longtemps. Hein, ce chiffre d'affaires de 3 années, hein, c'est pour que le registre puisse garantir une certaine fonction et pour continuer une opération pour pouvoir protéger les registraires. Et avoir les opérateurs successeurs de registre, mais ceci a fait partie du guide dès le début. Ça dépend du modèle de registre. Ceci ne fait pas partie de cette réunion. On n'écoute pas la question. Réponse. Je voulais donner un apport à cette réunion qui est nouvelle pour certains. Les points CO emploient plusieurs des mécanismes de protection de droits recommandés et je crois qu'il serait intéressant. Steve, comment ça fonctionne? Je voudrais parler avec le groupe parce que ceci serait intéressant pour le conseil de le contrôler avec les directeurs dans le registre. Oui, bon. Je veux parler du volume d'études économiques, de l'énorme travail fait par le conseil pour analyser avec le personnel ces études. Je crois que le travail a été vraiment substantiel, donc nous allons continuer dans cette ligne.
Just a quick comment on the .co.
Un complément tout court sur le .com et la perspective, le mécanisme de protection peut évoluer constamment et non simplement pour les GTLD ou les CTLD, les points et où, par exemple, AU au point info, au point biz, point asi, et point co, ce sont les dernières versions qui ont été lancés, même en écriture cyrillique en Russie. Mais c'est là de nouveaux mécanismes qui se trouvent. Ce sont de nouveaux mécanismes qui sont en phase de test. C'est un processus continuel d'amélioration que nous mettons en œuvre. Shepard, je voudrais corriger quelque chose qu'on a écouté sur les registres, les enregistrements de défense qui n'est pas bien cité dans les études. Tout ceci est lié à la protection de la réputation, non pas par rapport au trafic. C'est un TLD qu'on ne veut pas payer, mais qu'on est forcé à payer à cause du modèle d'affaires d'une autre personne. Donc, nous ne voulons pas avoir des candidatures pour la défense de ces TLD. Parce que parfois, on ne veut pas payer, mais on se trouve forcé parce que c'est le modèle d'affaires d'une autre personne. Donc, il faut payer une grande quantité d'argent. Ces candidatures, ces registres de défense, donc, signifie un drainage pour d'autres affaires. Parce que c'est quelque chose qui dépasse les secteurs d'opportunités commerciales. Il faut le dire clairement. Ceci, c'est, je crois, parce que moi, je pense, pourquoi devons-nous avoir tout ce mécanisme de protection, de défense, en évitant les externalités? Merci. Merci. Donc, si les membres du Conseil pensent qu'ils sont d'accord, est-ce qu'il y a deux autres questions? La protection de marques déposées et le comportement malveillant, bon, tout ceci est lié. Donc, je voudrais... Nous avons 50 minutes encore. Bon. Combiner donc tout ceci et faire les commentaires. Je vous invite donc à ceci au moment de vous présenter au micro pour décrire ce que vous dites. Si vous parlez sur les mécanismes de protection des droits ou sur le comportement malveillant ou comment atténuer les deux choses-là. Je crois que ces questions ont été bien évaluées par ce public. Donc, il nous faut voir le développement de protections de marques qui ont des collaborateurs critiques, des experts dans les unités et dans les protocoles d'Internet et les regroupements. Et il y a plusieurs documents qui publient et qui ont été publiés, qui ont donné comme résultat des mesures spécifiques sur le guide. Et si on les analyse, il y a des mécanismes préalables au lancement qui agissent par le biais des réclamations de marques. C'est chambre de compensation pour chacun de registres et la délégation du processus de pour chercher ceux qui sont paisibles ceux qui ont des comportements délictuels ou diffamatoires. Et ceci crée une responsabilité pour les registraires. Donc, au moment de vous présenter au micro, hein, nous allons vous demander de débattre les changements spécifiques à la série actuelle de mécanismes de protection déjà existants. Et par rapport au comportement malveillant, de la même forme, il y a eu des collaborateurs critiques importants à ce propos. Il y a un SLTD, un groupe de consultants dans chaque groupe qui a développé une série de normes de protection contre le comportement malveillant et des groupes de TLD de haute sécurité qui veulent créer un programme volontaire pour les registres, qui veulent se certifier comme des zones de haute sécurité. Ces groupes collaborent avec nous et ils ont présenté un produit qui se trouve aussi sur le guide. Vous pouvez en avoir accès. Hein. Et les deux questions se sont manifestées dans les commentaires du guide. Il y a une version actuelle du guide en plus. Hein. Donc, les mesures pour atténuer ceci, hein, c'est ce qu'il faut traiter. Voici la dernière qui n'est pas incluse sur le transparent, là, sur l'image. Il n'y a pas de code de comportement ou de conduite pour que le registre puisse être protégé contre l'abus de données. Hein. Ceci a été publié avec les dernières actualisations. Et une autre proposition. Nous avons considéré d'identifier et nous allons continuer à travailler sur les politiques d'élimination des services de proxy et la certification sur Huis également dans la recherche. Et il y a une autre proposition qu'on pourrait faire, c'est que Huis doit être plus internationalisé pour pouvoir avec exactitude rendre compte sur différents scripts de la base de données de Huis. C'est une autre de choses qu'on a proposées, hein. Donc, les commentaires jusqu'ici sont bien passés dans cette réunion. Je vous demande donc de vous rapprocher du micro et pour nous participer de vos commentaires sur la protection de marques de possède, l'atténuation du comportement malveillant et ce qu'on pourrait changer et quels autres travaux on devrait entreprendre. Donc, pour reconnaître ces et cette salle, que tout le monde puisse savoir faire ce commentaire.
Je vais parler sur la conduite malveillante et à ce jour, je participe du groupe de travail de haute sécurité de TLD. Comme vous savez bien, ICANN a une excellente considération vis-à-vis de l'activité du conseil. Je vais demander à ICANN de permettre que le groupe HSTLD finisse son travail à ce jour. Nous sommes au milieu d'un produit RFI, d'un processus RFI. Nous avons reçu un appel la semaine dernière des entreprises de comptabilité qui vont participer de ce processus RFI et des programmes de validation. Nous avons travaillé avec le staff de l'ICANN. Nous avons conçu un rapport qui va être disponible la deuxième semaine du mois de février qui va être publié dans un délai acceptable avant la prochaine réunion du mois de mars. De ce point de vue, nous avons pu finir notre travail et c'est quelque peu étrange de répondre à certains participants au milieu d'une période de RFI lorsque le Conseil a dit pratiquement que nous ne voulons rien avoir avec cela. Si l'ICANN est engagé avec le processus du bas vers le haut, nous voulons finir notre travail et nous allons apprécier si on ne prend pas de décision avant cela. J'ai parlé sur le fait de commencer la clôture responsable de ce processus, de cet enregistrement. Je veux parler de cette clôture. Il y a une manière correcte et une manière incorrecte de le faire. Il y a des démarches à suivre et là on voit lorsqu'on ouvre et lorsqu'on le ferme. Il y a différentes choses et je voulais que ce soit fait avec responsabilité. Merci. Pourriez-vous élaborer un tout petit peu du processus du bas vers le haut? Pour résumer brièvement, quels sont les résultats de la HSTLD? Quels sont ces résultats? Vous créez des politiques sur des zones sûres lorsque vous dites un processus du bas vers le haut, parce que ça, je ne l'ai pas vu sur le GNCO, pas encore. L'ICANN l'a demandé. Le conseil d'administration de l'ICANN peut demander la création de politiques. Cela ne veut pas dire qu'il y a du monde qui se réunit et qui dit « Allez, on va aller derrière moi et que je peux aller à l'avant, je peux prendre la responsabilité. » C'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Et jusqu'à la conférence de Bruxelles, on s'est réunis une fois par semaine et nous avons eu des doubles appels pour continuer avec les contrôles. Nos activités étaient en réponse de l'ICANN pour des questions en cours. Je voudrais comprendre un peu mieux la requête ou la demande, mais le contexte. C'est-à-dire, j'aimerais me réunir avec toi pour voir quel est le contexte du processus. Eh bien, Bruce, je ne vais pas répéter ce qui est dans ma candidature de reconsidération, mais lorsqu'on parle de demander une explication dans la résolution, vous avez cité les questions légales. Et ce qui est apparu comme... tout de suite, c'est que les questions légales n'ont pas été envisagées et dans les documents, il n'y avait pas de référence aux aspects légaux de la question. Alors, comme quelqu'un qui fait partie de la communauté et qui voit les décisions qui disent, eh bien, c'est cela ce que l'on va résoudre et finalement, on ne le fait pas pour une question de responsabilité, alors le conseiller général et ICANN ont essayé de voir comment pourrons-nous aborder les questions légales et les choses à faire par le groupe, c'est justement de voir qu'est-ce que ICANN a fait vis-à-vis de TRRP. Et l'ICANN a créé les politiques, il y a un WPIO, il doit demander au WIPO de l'administrer. Le fait de ne pas avoir la possibilité de comprendre l'enregistrement est frustrant. Et là, je crois que cette frustration vient de certaines personnes qui sont ici ou du GAC où l'on entend beaucoup parler de cette frustration. Et il y a des gens qui veulent aider à ce que le processus puisse clôturer de manière avec du succès et de manière responsable. Philippe Shepherd, encore une fois, par rapport à l'unité au regroupement commercial. Hier, nous avons vu un document en processus qui concerne plusieurs sujets. Ce document de 16 pages va être distribué dans le plus bref délai. Pendant ce temps, je vais résumer quelque chose sur les mécanismes de protection des droits pertinents. En premier lieu, l'ICANN ne fait pas attention aux mécanismes de protection. Le guide final. Si ce sujet avait été fini avant ou avait été résolu avant, si l'on avait entendu d'autres voix différentes, URS ne va pas être un processus rapide. Il a été suspendu, mais il n'est pas encore prêt. Nous avons plus de détails dans ce document que nous allons vous envoyer, mais notamment, on a des problèmes au sujet de la possibilité de faire des révisions et les expansions sont temporaires. De plus, la chambre des compensations n'est vraiment pas une chambre, c'est une base de données tout simplement, hein, the clearing house. Nous avons vu cela vis-à-vis des qualifications qui ne seront pas prêtes encore non plus. Comme je vous l'ai dit hier, ce que l'on suggère figure dans ce document et cela va pouvoir vous aider certainement. L'objectif auquel nous voulons arriver pour ce qui est des marques qui qualifient et la manière dont on le fait, c'est là justement notre objectif. C'est la phrase que nous voulons inclure dans certains régimes de marques que l'on a vérifié avec des experts de marque. Ceci concerne différents types de régimes. C'est approuvé. Alors, je vais voir si je peux finir, OK? Quand Estelle Del Bianco aura fini avec son email. Une troisième chose qui a trait à la dispute de la délégation et au processus mis en œuvre. On est préoccupé de la charge de la preuve là, au second, à un deuxième niveau. Là, on met l'information sur le papier. L'essence du message est la suivante. Si l'on va dans la direction correcte ou pas, il y a certains sujets fixes décrits auparavant et que l'on va essayer de voir de manière correcte. Nous sommes sur la bonne route, on n'y est pas encore parvenu. Merci Steve. Mon commentaire a trait à la conduite malveillante. Kurt, tu disais tout à l'heure, pourquoi la personne ne faisait pas des commentaires sur les applications? Eh bien, c'est le critère N35 qui dit qu'il faut qu'il y ait des mesures de sécurité appropriées pour demander les GTLD ainsi que d'avoir des commentaires sur les capacités et la nature de ce que l'on demande au GTLD. Je crois qu'il s'agit d'une démarche très positive. Il existe, on l'a dit pendant longtemps, certains GTLD par caractère, disons, ce ne sera pas suffisant d'avoir un niveau minimal de protection contre la conduite malveillante sur les autres GTLD, sur les autres demandes qui devront y répondre. Je suis préoccupée du fait que la description des niveaux de sécurité commentée avec les demandes de GTLD, je me demande s'ils ne vont pas être mis en œuvre. Pour le public, c'est difficile de donner du conseil aux évaluateurs, même si les membres du public connaissent les types de protection devant être disponibles pour certains ensembles qui ont des conséquences vis-à-vis de la confiance et des critères nommés au 35. Je crois qu'il serait utile pour tous, pour l'ICANN, d'établir spécifiquement quels sont les sujets implicites dans ces critères qui ne sont pas appliqués seulement aux services financiers, mais aussi à d'autres types de services qui ont des conséquences exclusives. Et en deuxième lieu, faire en sorte que l'information soit comprise et qu'elle soit disponible, non seulement en parlant de la sécurité, pour la sécurité elle-même, mais j'espère que toute l'information puisse se trouver disponible pour le public, parce que ce que nous faisons en définitive avec ces critères, c'est laisser que le public guide les évaluateurs sur la direction et là où les mesures de protection et de sécurité sont solides. Alors, pour que le public puisse faire son travail, on doit lui donner davantage d'informations sur les plans actuels. Merci beaucoup. Oui, alors, en répondant rapidement aux commentaires de Bruce, nous avons reçu certains guides et certains conseils et de bons motifs pour maintenir le type de sécurité de manière confidentielle. Je dois dire que nous n'avons divulgué aucun plan de sécurité pouvant provoquer des dommages. Il est difficile au niveau personnel, je crois cela, et au niveau de la sécurité. Mais je ne vais pas donner mes codes chiffrés à personne. Mais c'est quelque chose de très vaste. Et alors, ce que l'on fait, c'est contrôler Et je crois que finalement on parle d'authentification, quels sont les besoins ou les exigences pour faire des vérifications. Il faudrait faire des vérifications en définitive. Le commentaire visait à considérer s'il y avait des commentaires publics ou privés. Merci beaucoup. David Taylor. J'ai une déclaration d'intérêt à faire. En deuxième lieu, je suis avocat. Et en troisième lieu, je vais bénéficier du manque de mécanismes de protection de droits comme avocat. Personnellement, je vous dis enlever tout ça. Si je prends la place du consommateur et la protection des droits des consommateurs, je crois qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est un exemple pour voir où on est aujourd'hui avec les URS. Ce n'est pas rapide, c'est redondant, parce que bien des fois, dans 7 jours, on peut voir que 47 jours, ça devient 40, et finalement, ça c'est 35 jours. Donc, le suivi est plus facile et plus rapide de présenter le UDRP. Si l'on donne à un avocat 5000 mots, il va écrire 4995 ou 99. Donc, moins de mots dans la réponse pour que les honoraires soient moins élevés. Hein? Et je ne vais pas faire d'autres commentaires. Je m'appelle Christina. David a parlé de la déclaration d'intérêt. Je suis d'accord avec lui. Il y a certaines suggestions très spécifiques sur les mécanismes de protection. En premier lieu, je crois que sur ce point, il est important de reconnaître que bien que l'IRT ait recommandé un match identique, il y a des solutions qui sont bien plus vastes que ça et que l'on ne va pas anticiper ou qui n'ont pas été encore révélées. C'est une certitude virtuelle que nous n'avons pas recommandé la plus vaste couverture. Et pour ce qui est de l'URS, je tiens à dire qu'il existe un brouillon, une version préliminaire très pauvre qui dit que les enquêtés ne répondent pas et l'examinateur peut avoir n'importe quelle défense. Alors, l'enquêteur gagne ou le demandeur gagne. Alors, il faut voir quelle est la défense possible indépendamment de sa qualité pour avoir du succès. Il y a des exceptions dans le mécanisme et je ne veux pas répéter les commentaires précédents, mais je veux vous dire que l'on cherche une intégration verticale future et complète. Et je vous dirais que c'est bien, mais que l'on ne peut pas avoir tout ça complet. Et pour ce qui est des TPRD, je veux dire que n'importe quel registrar qui est intégré verticalement avec le registre peut avoir une réclamation de la marque. Essayez de ne pas éviter cette conduite de registrant.
Finalement, comme on l'a écrit dans la politique, dans tous les pays, qu'ils ne soient pas les États-Unis, le Canada, l'Australie, où on demande une preuve d'emploi, il faudrait aller aux chambres de compensation de marque pour le valider. Donc, c'est comme un échange de ce qu'on a proposé pour avoir. D'un côté, on ajoute une charge plus importante. Et finalement, je veux vous dire que j'ai compris que Paul a dit que le .com a les mêmes mécanismes de protection de droit que .biz. Et ceci n'est pas correct. .com n'a pas les mêmes mécanismes. À sa place, il y a une merveilleuse opportunité d'écrire des documents et des solutions pour traiter toutes ces questions intégralement. Hein. Et une autre forme de travailler sur des solutions qu'on n'a pas été très bon traiter. Il faudrait créer un registre. On ne peut pas présenter une demande de URP et c'est bonne pour 4 000 $ en incluant les droits de représentation des marques. Donc, il faut garantir qu'il n'y ait pas de cybercrime, qu'on ne porte pas atteinte à la marque. Et pour continuer avec cette idée, je crois que c'est très bon hein, par rapport au point CO déjà en œuvre dans les changements des listes globalement protégées. Hein? C'était...
Bina, why don't you give us feedback on how the CO process worked? I mean, that's what we're trying to learn from. So.
Est-ce que tu peux montrer quel est le processus de point com, hein? L'expérience a été bonne ou non? Le verdict, il faut le donner encore. Hein? Il y a certains problèmes, spécifiquement le GPML, parce que nous savons que si on continue le rapport IRT, toutes les personnes qui ont travaillé avec Cécile ont travaillé à titre personnel. Ils ont travaillé ceci à l'interne. Hein. On peut voir sur les RTA s'ils ont passé cette information. Des questions? CathyKleiman.org se trouvait au STI. Hein. Je voulais demander ce qui se passe avec la période de notification de 20 jours sous les STI. Hein. Nous avons beaucoup travaillé ceci. On a consacré beaucoup de temps à ceci. Hein. La raison, c'est parce que nous voulions notifier les registraires et sur l'ORP, on répond très tard dans la journée parce que ça prend un temps jusqu'à la notification arrive. Donc, celui qui pose la plainte, et jusqu'au moment de la présentation de la plainte, donc il y a un temps qui s'écoule et même si une période de vacances, par exemple, jusqu'à une résolution pour la question. 14 jours, par exemple, même si on a 7 jours de plus, c'est un temps trop court pour répondre et pour trouver quelqu'un qui nous aide à cette réponse. Je pourrais savoir ce qui se passe avec ces 7 jours parce que nous avons créé une décision très, très rapide et les examinateurs doivent s'en occuper. Hein. À ce qui concerne le GPML.co, je voudrais... Ceci pourrait bien fonctionner pour .co et pas pour le reste de GTLD, avec les GTLD non commerciaux. Les TLD qui puissent ou non se superposer au .com, ce sont des mondes différents. Hein. Je crois que ça a été très bon de connaître les mécanismes. Le PDRP, hein, c'est... je veux vous remercier ceci, hein, parce que ça va... Vraiment mieux, c'est un défi de GTLD qui a des centaines de millions d'enregistreurs, de registraires. Il y a eu un appel là et il y a une reconnaissance. Les examinateurs demandent de considérer l'impact de la révocation de TLD sur le registre, sur le registraire. Et ceci le fait est plus robuste et la procédure s'améliore. Un commentaire sur le GPML et sur la mise en œuvre du .com. Et ceci se trouve à cœur ouvert pour le mettre sur le processus et que ce soit obligatoire non seulement pour les nouveaux GTLD, mais aussi pour les existants. Dans la mesure où Christine ou ses collègues ou quelqu'un qui s'occupe de .co nous disent que nous devons mettre ceci en œuvre ou que nous disent ceci a mal fonctionné, on l'a amélioré. Bon, c'est ça ce qu'ICANN doit faire. Hein. Si on ferme la porte à ceci, nous ne pourrons pas avoir un succès. Nous devrions peut-être retourner au GNCO, le modifier un peu, parce que si le GNCO le montre, bon, le conseil va le supporter. Hein, ceci va être obligatoire. Donc, je veux vous dire que les nouvelles procédures déterminées doivent être après obligatoires. Un commentaire. Nous avons compris que c'était une suspension rapide pour des cas tout particuliers. Hein? Donc, c'est pourquoi on parle d'une période qui s'étend. J'ai écouté un commentaire et on dit que la période de temps est plus longue que celui de UDRP. Hein? On pensait à ça, justement. Et je voudrais maintenant Écoutez, pourquoi il faut penser qu'il c'est mieux que ce soit plus long que l'UDRP si nous avons un panéliste ou trois, si c'est une période trop longue pour les décisions? Je crois que ce sont 3 jours. Hein. Les examinateurs devraient prendre une décision très vite. Hein, et il n'y a pas eu suffisamment de notifications aux registraires. Hein, qui, s'ils passent à un filtre de spam, ils doivent trouver une solution d'une forme ou d'une autre. Mais cette décision rapide doit être en amont et en aval. Et c'est ça qu'on a conçu le UDRS. Il y a plusieurs instances qui ont des problèmes, Cathy, hein, ici. Ceci n'est pas encore spécifié, mais nous devons imaginer quelque chose. Il y a des choses pour et d'autres choses contre, mais il faut apprendre de ça et pour décider si on a besoin de 14 ou 21 jours, plus court ou plus long. Hein. Bruce, je voulais prendre l'exemple de l'URDP. UDRP, hein, qui a été un problème pour Nokia. Hein, ceci a pris 35 jours du commencement de la WIPO. Nous devons donc voir quel est le délai maintenant. Hein. Je sais que vous avez parlé de métriques sur le nouveau GTLD. Parfois, il y a des commentaires sur... ceci, mais bon, si on fait une analyse de ce qui s'est passé, hein, comme le cas de Marco Polo, donc si on fait une analyse, on fait une base et on travaille sur ce que Delta dit, hein, le fait d'analyser la quantité de temps et les différentes plaintes dans le processus UDRP, les contre-plaintes, je crois que c'est utile. Je ne sais pas si 16 000 lettres, c'est bien ou mal, hein, mais en faisant une analyse statistique des procédures du UDRP, UDRP qui existent, je crois que nous commençons à avoir une base pour comparer et savoir si la situation va s'améliorer ou non, hein, à partir de mécanismes qui se trouvent en marche. Je représente Newstar et je fais ce commentaire à titre personnel. J'étais un avocat et maintenant je suis membre fondateur de UDRPC, hein, et je dans les processus de résolution de Il y a un équilibre approprié maintenant et ce serait un désastre si on ne le faisait pas ainsi. Hein. Oh, j'ai vu qu'on demande certains standards et je veux vous dire que le Conseil devrait reconsidérer cette lettre, un standard sur lequel on a et fait un rapport que j'ai envoyé à un moment donné. Et avant de passer à un autre commentaire, hein, ne travaillez pas sur des arguments qui existent déjà, partez de choses nouvelles. Et je vais remercier Christine par la proposition qui se trouve sur le document que va donner le BC. Hein. Mais si ceci parle du processus de résolution de différends, oui... c'est bon d'intégrer les registrants et les registraires. C'est bien, hein? Si vous voulez le laisser comme ça, faites-le. Moi, j'ai participé de l'IRT, de l'STI, hein? Et maintenant, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour avancer. On a déjà testé, nous avons beaucoup appris du passé. Les réclamations d'IP, on m'a dit, ah, tu es le père de réclamations d'IP, hein, parce qu'on l'a fait pour Point BIS. Moi, je l'ai écrit, il y a eu beaucoup de changements dans les processus d'IP. On a appris ça déjà. Il y a les et toutes ces idées hein, que vraiment on a testées. J'ai été opérateur de CEO. Bon, les choses fonctionnent maintenant, vont bien. Il y a eu peu de réclamations. Personne ne doit payer un cabinet d'avocat et c'est génial. Hein. Les choses commencent à fonctionner. Mais nous sommes arrivés assez loin. Maintenant, c'est le moment de commencer à tester ceci.
Oui, Williams.
Je représente le service financier de la communauté. Pour un temps, je suis Lee Williams. Hein, et nous avons demandé au conseil d'augmenter le niveau de sécurité pour les domaines de premier niveau. Et nous avons vu des langues qui commencent à s'ajouter dans la technologie des services financiers hein, avec des conséquences uniques et exclusives. Par exemple, dans le domaine qu'on attend, duquel on attend un certain niveau de sécurité. Et nous voyons que ceci répond aux commentaires et cette question des langues. Hein, et on apprécie qu'on ceci soit ajouté dans le guide de candidature. Hein. Et mais bon, tout ceci commence. Il nous faut maintenant faire réalité ce niveau de sécurité. Et nous avons maintenant une approche d'aller en avant pour la mettre en œuvre et voir si ces avantages se font concrètes et se matérialisent. Certains commentaires de Steve sur le groupe de conseil de GTLD et la forme de travail de ce comité consultatif hein, et la confidentialité. On a remarqué ceci et c'est un exemple d'un groupe qui est heureux d'investir le temps pour faire que les standards de sécurité s'améliorent et pour donner le niveau de spécificité nécessaire pour le travail des évaluateurs pour analyser les applications quand elle arrive, et tout le personnel permet d'avancer sur ces questions, même si c'est un peu plus indépendant de ce qu'on avait demandé il y a des années. Il y a des avantages dans ce processus, et ce guide, c'est l'opportunité pour le développement de la part de l'industrie des standards de support de services financiers, par exemple. Hein? J'imagine qu'ils sont prêts à développer ces standards, et si nous avons des SLD ou des standards de développement qui peuvent être publics, nous pourrons avoir donc cet engagement par rapport au public. Que le public soit au niveau de ces standards avec des techniques d'écryptage et pour vraiment respecter les standards plus élevés dans le financier pour le SLD. Et c'est très utile parce que si on considère les candidatures, bon, on peut faire confiance à ces standards de forme particulière. C'est une forme de respecter ceci RFC hein, et ceci doit être traité par le DNSSEC hein, pour l'industrie pharmaceutique, par exemple, pour qu'ils pensent comment ces secteurs de l'industrie peuvent avoir le support du reste de l'industrie. Ça, c'est très utile. Hein, et on peut faire public ce genre de commentaires sur une demande particulière avec un nom particulier hein, dans le secteur de l'industrie auquel on appartient pour pouvoir évaluer ceci et comprendre si c'est d'application ou non. Hein, ça, c'est correct. Donc, la différence entre ICANN et les autres standards, bon, c'est qu'il faudrait considérer surtout les industries externes, si c'est un IST, si c'est l'industrie financière, et voir quels sont les différents aspects qu'il faut évaluer, qu'il faut analyser, parce que chaque demande a les standards de sécurité, hein, et doit être approprié pour pouvoir présenter candidature. Et l'important, c'est que les évaluateurs et les requérants puissent reconnaître d'où ils proviennent et que ceci puisse être analysé à la délégation. C'est très intéressant pour la sécurité en général de toute la communauté, pour le personnel, pour le conseil. Il y a des avancements très clairs et on continue à investir de ressources pour mettre en œuvre ces techniques de forme continuelle. Merci.
Marc Classic, un commentaire très bref sur la chambre de compensation. Je crois qu'il y a des choses à améliorer, bien sûr, et qui sont très pauvres et qui parlent de la vérification des fondements de l'enregistrement. Eh bien, c'est ça ce que font les gouverneurs, hein, les gouvernements plutôt. Ils prennent des décisions. qui des fois sont contraires à ce que le bureau des marques indique. Ceci a été fait de manière honnête, hein, et de manière similaire à d'autres commentaires que nous avons déjà reçus. Merci. Bruce, Rita, vous avez des commentaires? Non, je crois que tout cela est vraiment utile. Le Conseil a pris note de tous les commentaires faits pendant cette semaine. Il y avait certaines préoccupations concernant les commentaires que l'on allait entendre. On a essayé d'être très transparent dans nos décisions, nos commentaires, essayé de mettre cela en pratique. Nous avons pris note de tout ce qui a été dit. Nous allons en informer le Conseil pour essayer de résoudre toutes ces questions et revenir à vous avec des commentaires et dire, eh bien, voilà ce que le conseil d'administration a pu résoudre ou pas, et que vous ayez une idée plus claire de toute la communauté. Merci de vos commentaires. Seulement pour conclure, quelques commentaires de M. Paul Foudy. Où êtes-vous, hein? Je ne sais pas vraiment. Bon, un petit commentaire sur la conduite malveillante. Une toute petite minute, quand j'étais à l'IP, j'ai vu que les avocats de la propriété intellectuelle avaient un problème réel, vraiment. Et en deuxième lieu, bien des fois, les avocats ont besoin de temps pour maintenir les choses de manière malveillante. Récemment, il y a eu une demande bancaire qui a été rejetée parce que il semblait comme un mot nazi, soi-disant. Et en deuxième lieu, parce que le comité olympique l'avait utilisé, donc le comité olympique de Londres. Certains avocats utilisent la loi pour pouvoir freiner ce que le comité olympique de Londres a choisi, disant que nazi, c'était leur logo. L'article 3.18 dit que lorsque l'on demande des GTLD qui sont contraires aux normes légales normalement acceptables, la morale et l'ordre public, reconnus comme le principe de la loi internationale, inclut la promotion de pornographie infantile, abus sexuels des enfants, et même il y a l'information publique et l'effort pour avertir que la pornographie infantile a été multipliée par 10 au Canada. Alors, si l'on ne profite pas de l'occasion de freiner le domaine 3xx, alors, on ne respecte pas nos propres normes. Merci, merci beaucoup. OK, alors, merci de votre temps, de vos commentaires, de très bons commentaires. Nous avons pris note de ces commentaires, je répète, et nous allons les considérer. Merci.